Laudetur Jesus Christus.
En cette période de conflit croissant, Hiroshima et Nagasaki, témoins vivants des horreurs causées par les armes nucléaires. Message du pape Léon XIV envoyé à l'évêque d'Hiroshima. La ville japonaise commémore ce mercredi les 80 ans de la bombe atomique. Jour d'investiture en Pologne, Karol Nawrocki, le nouveau président élu, va prêter serment. Nouveau mandat en cohabitation avec son premier ministre et plusieurs divergences, notamment au sujet des réfugiés ukrainiens. L'armée israélienne devrait prochainement étendre ses combats à de nouvelles zones de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou prévoit une nouvelle phase du conflit. Nous irons à Tel Aviv. Avant de partir dans notre dossier pour l'Angola, ce grand pays pétrolier d'Afrique australe où la répression des manifestations contre l'augmentation des carburants a fait au moins 30 morts la semaine dernière. La commission justice et paix de l'épiscopat est montée au créneau. Nous entendrons son président.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. 6 août 1945, 8h15, les États-Unis larguent une bombe atomique dans le ciel d'Hiroshima, tuant 140 000 personnes. Trois jours plus tard, une bombe identique frappe Nagasaki. 74 000 personnes périssent. 80 ans après, le monde se souvient. Une minute de silence a enveloppé ce matin la ville nippone lors d'une cérémonie réunissant une centaine de pays. Mais la Russie, la Chine ou encore le Pakistan étaient absents. Dans une lettre adressée pour l'occasion à l'évêque d'Hiroshima, Monseigneur Alexis Mitsuru Shiarama, Léon XIV estime que la véritable paix exige le courage de déposer les armes. Il appelle à forger une éthique mondiale fondée sur la justice, la fraternité, le bien commun. Le pape américain, qui dès la première heure après son élection, il y a plus de 100 jours, exhortait à une paix désarmée et désarmante. Un appel rejoint par l'épiscopat japonais. Écoutons l'archevêque émérite de Nagasaki, Monseigneur Joseph Mitsuaki Takami.
De plus en plus, ceux qui ont connu la guerre et la bombe atomique sont disparus, alors que dans le monde, il y a des conflits, il y a des risques de la bombe atomique. On a beaucoup de choses à faire. Surtout, on doit transmettre notre message, notre témoignage à la seconde génération, à la génération suivante. C'est notre mission urgente. Il y en a encore beaucoup, beaucoup de jeunes gens ne connaissent pas, ne veulent pas, ne s'intéressent pas beaucoup. C'est pour ça que nous devons faire appel, surtout ceux qui possèdent les armes nucléaires. Ils n'ont pas d'oreille à nous prêter. Il faut donc que nous suscitions chez eux l'horreur. Pour moi, c'est vraiment absurdité de procéder à l'armée nucléaire parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'horreur de la bombe atomique vraiment comme un instrument meurtrier qui n'a aucune valeur. Il faut faire savoir ce fait-là. Mais c'est difficile. Hein? Il faut donc toujours crier notre revendication.
Monseigneur Takami, archevêque émérite de Nagasaki. Et ce matin, le cardinal Kupich, archevêque de Chicago, préside une messe pour les victimes de la bombe atomique à Hiroshima. Il est sur place avec le cardinal McElroy de Washington et plusieurs autres archevêques américains en signe de solidarité. La guerre en Ukraine n'est pas étrangère à l'explosion actuelle des budgets de défense partout dans le monde. Un conflit que le président américain s'échine à résoudre pour l'instant sans succès. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est arrivé ce matin à Moscou. Il doit conduire d'ultimes discussions avant l'échéance fixée par la Maison-Blanche au Kremlin à ce vendredi. Le nouveau président investi en Pologne ce mercredi, le conservateur Karol Nawrocki, va prêter serment devant les deux chambres du Parlement. Une messe pour la patrie doit également avoir lieu à Varsovie. Son mandat promet une cohabitation compliquée avec son premier ministre, le libéral Donald Tusk. L'une de leurs visions divergentes concerne les réfugiés ukrainiens. 2 millions ont été accueillis en Pologne depuis 2022. À Varsovie, Adrien Sarla.
Tout au long de la campagne présidentielle, Karol Nawrocki n'a eu de cesse de répéter son mantra dans les vidéos postées sur ses réseaux sociaux.
La Pologne d'abord, les Polonais d'abord.
Et il a déjà une idée très précise de la façon dont il compte s'y prendre pour le rendre concret.
Les citoyens polonais devront avoir la priorité dans la queue chez les médecins et dans les centres de santé. Dans nos écoles et les crèches, on veut des enfants polonais. Et les allocations sociales devront être avant tout destinées aux Polonais.
Des promesses qui s'apparentent à une forme d'apartheid, selon Oleksandr Pestrikov, représentant de la fondation Maison Ukrainienne à Varsovie.
En voyant Nawrocki parler de cette manière, une personne qui n'aime pas les Ukrainiens mais qui aurait eu honte de le dire peut maintenant le faire ouvertement. D'une certaine manière, il vient de légitimer le discours anti-ukrainien chez les citoyens polonais.
Parmi les Ukrainiens que nous avons contactés, tous ont refusé de commenter publiquement les promesses du nouveau président, de peur d'être encore plus stigmatisés. Déjà en début d'année, 86% des Polonais jugeaient que les allocations sociales devraient être suspendues pour les Ukrainiens sans emploi. À ce jour, près de 29 000 d'entre eux n'ont toujours pas trouvé de logement fixe et dorment encore dans des auberges de jeunesse polonaises. Adrien Sala, Varsovie, pour Radio Vatican.
Et le nouveau président polonais opposé à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN s'est toutefois bien entretenu avec le président Zelensky jeudi dernier, qui s'est déclaré rassuré. Et pour renforcer les défenses de l'Ukraine, la Suède, le Danemark et la Norvège vont acheter des armes américaines pour une valeur totale de 500 millions de dollars. Cela comprend des systèmes de défense aérienne, des armes anti-chars, des munitions et des pièces détachées. Désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année, c'est le plan préparé par le Liban. La décision a été prise ce mardi en Conseil des ministres, une mesure sans précédent depuis la fin de la guerre civile. Parallèlement à la réunion du gouvernement, le chef du Hezbollah affirme que sa formation n'accepterait aucun calendrier censé être appliqué, je cite, sous le feu de l'agression israélienne. À Gaza, 20 morts ce matin dans l'accident d'un camion de vivres, annonce la défense civile. Celui-ci s'est retourné sur la foule pressée à ses abords pour recevoir de l'aide alimentaire. Des scènes de chaos qui devraient se répéter. Le premier ministre israélien envisage une nouvelle phase de guerre imminente où Israël devra vaincre totalement le Hamas à Gaza pour assurer la libération des otages, étendant les combats à des zones où l'armée s'était abstenue d'aller. À Tel Aviv, Julia Ganancia.
La guerre à Gaza va-t-elle entrer dans une nouvelle étape dans les jours à venir? 22 mois après le début du conflit provoqué par l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, le gouvernement israélien a fait savoir qu'il envisageait d'étendre ses opérations militaires dans la bande de Gaza, voire d'en ordonner l'occupation totale. Ce mardi, la réunion de sécurité restreinte présidée par le Premier ministre israélien a pris fin après 3 heures de discussion. Il est nécessaire de vaincre totalement l'ennemi à Gaza, de libérer tous nos otages et de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La presse israélienne, citant des officiels s'exprimant sous couvert d'anonymat, est unanime à prédire une nouvelle escalade des opérations dans le territoire dirigé par le Hamas. Un nouvel élément qui suscite de fortes inquiétudes auprès des familles d'otages. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Entrée en vigueur ce mercredi à minuit une des droits de douane de 50% visant les produits brésiliens. Le décret était signé la semaine dernière. Une hausse surprise décidée par Donald Trump, mécontent des poursuites judiciaires contre l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, assigné à résidence depuis lundi. Les minéraux sous-marins font l'objet d'un accord entre les îles Cook et les États-Unis. L'archipel océanien les avait ouverts plutôt à l'exploration par la Chine. Et les minéraux du plancher sous-marin sont cruciaux pour développer la technologie d'aujourd'hui et de demain, réagit le département d'État américain. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel rejette la candidature de Maurice Kamto, le principal opposant à Paul Biya. Il ne participera donc pas à la présidentielle du 12 octobre, mais 2 autres opposants ont été acceptés pour un total de 12 candidats, Ayaoundé et Baïsoungué.
Ancien président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et deuxième à la présidentielle de 2018, Maurice Kamto avait cette fois-ci soumis sa candidature sous la bannière du Manidem. Cependant, Dieudonné Yebga, un ancien membre de ce parti, a également présenté sa candidature pour le compte du Manidem. Le conseil électoral avait alors rejeté les 2 candidatures. Une décision qui a été validée par le conseil constitutionnel, brisant le rêve présidentiel de Maurice Kamto. Cette décision qui écarte un acteur majeur de la scène politique camerounaise et principal opposant au président Paul Biya a suscité de vives réactions. Le MRC, l'ancien parti de Kamto, a exprimé son profond regret et a appelé ses militants au calme et à la sérénité. Les avocats de Maurice Kamto, quant à eux, parlent d'une décision politique qui consacre la fraude. Il convient de noter que 12 candidatures ont été finalement retenues à l'issue des 2 jours d'audience au Conseil constitutionnel. Eba Isongue, Ayaoundé, pour Radio Vatican.
Et l'église en Afrique, encouragée ce matin par le pape dans un vidéomessage adressé aux participants à un congrès du réseau théologique et pastoral panafricain. Léon XIV invite à continuer de bâtir la famille des églises locales dans les différents pays et régions du continent. Le calme de retour en Angola après plusieurs jours de violences inédites. L'heure est au bilan. Quatre ONG angolaises, dont l'une affiliée à l'Église, ont dénoncé hier des exécutions sommaires durant la répression de ces manifestations qui ont fait au moins 30 morts la semaine dernière. C'est l'un des pires épisodes de violence depuis des années dans ce pays. Des dizaines de magasins, entrepôts de la capitale avaient été pillés quand une grève de 3 jours des chauffeurs de taxi contre l'augmentation du prix des carburants a dégénéré. Pour le père jésuite Celestino et Palanga, secrétaire général de la commission à justice et paix de l'épiscopat angolais, vicaire également épiscopal pour la pastorale du diocèse de Luanda, cette crise sociétale que traverse l'Angola depuis plus de 10 ans est à l'origine du mal-être des populations qui vivent dans l'extrême pauvreté malgré les ressources naturelles dont dispose le pays.
C'était la paralysation des taxis, des transports publics et certaines, évidemment, jeunes surtout, ils ont pris ça comme une opportunité pour vandaliser, pour voler, pour brûler des choses, des supermarchés, des stations d'essence, des hôpitaux. La police nous a dit qu'il y a 22 personnes qui sont mortes, plus de 1000 autres personnes que la police a retenues et 138 personnes blessées, hospitalisées.
Le calme est-il à présent revenu?
Le calme est revenu, oui, depuis jeudi. Les taximens avaient décidé de s'arrêter pour 3 jours. Et on a repris les travaux et la vie normale. En fait, on a une crise pendant 10 ans, depuis 2014. Donc, c'est la crise socio-économique et financière du pays. C'est la pauvreté extrême que la population vit depuis des années. Plus de la moitié de la population est pauvre. Et le gouvernement, à cause de la FMI, il a décidé d'augmenter le prix du carburant. Et il y a aussi l'augmentation du prix de nourriture et de biens et services.
Quelle est globalement la situation sociopolitique et économique du pays? Le pays va-t-il si mal?
C'est vrai qu'on a beaucoup de ressources, mais le pays est extrêmement endetté. On peut toujours dire que l'Angola est riche, mais les gens sont vraiment pauvres. C'est vrai qu'on a du pétrole, on a d'autres richesses, mais la corruption, c'est comme un cancer, c'est en train de corrompre les tissus de la société. C'est pour cela que les gens, effectivement, se manifestent. C'est pas parce que les gens aiment aller dans la rue. Normalement, on n'a pas cette culture de brûler, de casser des choses. On fait des manifestations pacifiques. Je pense que trop, c'est trop. C'est pour cela qu'ils vont à la rue. Et la plupart sont des jeunes. C'est surtout les gens qui habitent dans des quartiers pauvres. C'est eux qui ont protagonisé cette violence. La police, maintenant, commence à tuer les gens.
Face à ce climat délétère, quelle est la position de l'Église?
Évidemment, on a condamné ça. L'Église demande à ce que le gouvernement puisse revoir cette position qui n'arrange pas la plupart de la population. On est en train de célébrer 50 ans d'indépendance et on a vécu pendant presque 30 ans de guerre civile. L'Église a toujours cherché la paix. Et évidemment, la population, oui, entend les messages de l'Église, mais demande aussi que l'Église puisse parler avec le gouvernement pour revoir ses mesures et surtout revoir la cherté de la vie pour que les gens puissent vivre. Et exige aussi que l'Église puisse commencer un dialogue avec le gouvernement. Pour le moment, c'est l'Église qui est en train d'établir les ponts entre le gouvernement et la population.
Le pape Léon XIV demande à tous d'hurler que nous voulons la paix dans le monde. Comment transmettez-vous ce message à la population angolaise?
Oui, à travers des programmes, à travers des formations, des conférences, c'est dans ces espaces que l'Église cherche de transmettre les messages de paix, de réconciliation. On est en train d'organiser un congrès national de réconciliation pour le mois d'octobre. La mission de l'Église en Angola, c'est ça depuis des années. On cherche de travailler pour la paix et pour la réconciliation.
Interrogé par Augustine Asta, le père jésuite Celestino Epalanga, secrétaire général de la commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale angolaise et de Sao Tomé, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition à 13h heure de Rome. Excellente journée.